Chapitre 7. Encore les mines de diamants. Quand Sarah fit son entrée dans la salle décorée de houx, cette même après-midi, elle était suivie d'un véritable cortège. Miss Minchin, parée de sa plus belle robe de soie, la conduisait par la main. Un domestique suivait, portant la boîte où se trouvait la dernière poupée. Une femme de chambre venait ensuite, avec un deuxième paquet. Et Becky, la dernière, qui avait mis un tablier propre et un bonnet neuf, en portait un troisième. Sarah aurait bien préféré entrer tout simplement, comme d'habitude. Mais Miss Minchin, à la suite d'un conciliabule dans son petit salon, ne l'avait pas entendu ainsi. « Ce n'est pas un jour ordinaire », avait-elle déclaré. Sarah fut donc conduite en grande pompe et se sentit intimidée en voyant les grandes la dévisager en se poussant du coude, tandis que les petites frétillaient de joie sur leur banc. « Silence, mesdemoiselles !» ordonna Miss Minchin en entendant les murmures qui s'élevaient. « Jacques, posez la boîte sur la table et enlevez le couvercle. Emma, mettez votre paquet sur une chaise. « Becky !» ajouta-t-elle soudain la voix sévère. Becky avait perdu la tête dans son agitation et regardait en souriant Lottie qui se tortillait de plaisir. La pauvre fille laissa presque tomber son paquet, si grande fut sa frayeur en entendant la voix grondeuse de Miss Minchin, et la petite révérence très gauche qu'elle fit pour s'excuser fut si drôle que Lavinia et Jessie ne purent s'empêcher de pouffer. « Il ne vous est pas permis de regarder ces jeunes filles !» dit Miss Minchin. « Vous vous oubliez, je crois. Posez votre paquet !» Becky obéit très vite et, tremblante, se dirigea vers la porte. « Veuillez nous laisser !» dit Miss Minchin aux autres domestiques avec un geste de la main. Becky s'effaça respectueusement pour permettre aux autres domestiques de sortir les premiers. Toutefois, elle ne put s'empêcher de jeter un regard de regret sur la boîte posée sur la table. Un peu de satin bleu se laissait apercevoir. À ce moment, Sarah intervint. « Je vous en prie, Miss Minchin, Becky ne pourrait-elle pas rester ?» La demande était hardie. Miss Minchin en sursauta. Puis, relevant ses lunettes, elle regarda d'un air embarrassé son élève. Cet élève dont elle était si fière. « Becky !» s'exclama-t-elle. « Ma bien chère Sarah !» Sarah fit un pas vers elle. « Je voudrais tant qu'elle reste, parce que je suis sûre qu'elle prendrait plaisir à voir les cadeaux. C'est une petite fille comme les autres. » Miss Minchin, scandalisée, promena ses regards de l'une à l'autre. « Ma chère Sarah, » finit-elle par répondre, « Becky est la fille de cuisine. Or, les filles de cuisine ne sont pas des petites filles. » Il ne lui était jamais venu à l'idée, en effet, qu'elles puissent être autre chose que des machines à porter le charbon et à faire le feu. « Mais je vous assure que Becky est une petite fille, » dit Sarah, « et elle s'amuserait beaucoup. Laissez-la rester, je vous en prie, en l'honneur de mon anniversaire. » Miss Minchin répondit avec beaucoup de dignité. « Puisque vous invoquez un tel motif, elle peut rester. Rebecca, remerciez Mademoiselle Sarah de sa grande bonté pour vous. » Becky s'était reculée dans un coin, roulant le coin de son tablier et attendant la réponse avec angoisse. Elle s'avança, faisant de petites courbettes, et tout en échangeant avec Sarah un regard d'intelligence, bredouilla. « Oh, s'il vous plaît, mademoiselle, je vous suis tellement reconnaissante. Oh oui, j'avais bien envie de voir la poupée. Merci, mademoiselle. Et merci à vous, madame, » dit-elle en s'adressant à Miss Minchin, à qui elle fit une timide révérence. Miss Minchin eut de nouveau un geste de la main, cette fois dans la direction du coin, près de la porte. « Tenez-vous là, » dit-elle, « mais pas trop près des élèves. » Becky obéit, l'âme en joie. Peu lui importait où on lui disait de se mettre, pourvu qu'on lui permît de rester dans la pièce, au lieu de l'expédier dans la cuisine pendant qu'on s'amusait ici. Elle ne se troubla même pas quand Miss Minchin tout sauta et annonça « Mademoiselle, j'ai quelques mots à vous dire. »« Elle va faire un discours, » murmura l'une des élèves. « Je voudrais déjà que ce soit fini. » Sarah se sentait mal à l'aise. Puisque c'était sa fête, le discours la concernait sans doute, et c'est très intimidant d'avoir à écouter une harangue dont on est le sujet. « Vous savez, mesdemoiselles, » c'est ainsi que débuta Miss Minchin, « que la chère Sarah a 11 ans aujourd'hui. »« Chère Sarah, » murmura Lavinia. « Il y en a plusieurs parmi vous qui ont aussi fêté la 11e année de leur naissance. Mais les anniversaires de Sarah ne ressemblent pas à ceux des autres enfants. Quand elle sera majeure, elle héritera d'une fortune considérable. Et son devoir sera d'en faire le meilleur usage. Les mines de diamants, ricana Jessie tout bas. Sarah n'entendit pas cette réflexion, mais debout, ses grands yeux attachés sur Miss Minchin, elle se sentit cependant rougir. Chaque fois que celle-ci parlait d'argent, elle se prenait à la détester. Et ce n'est pas respectueux de haïr les grandes personnes. Lorsque son cher père, le capitaine Crew, l'amena des Indes ici et me la confia, continua Miss Minchin, il me dit en plaisantant, « Je crains qu'elle ne soit très riche un jour. » Miss Minchin, ma réponse fut celle-ci. « L'éducation qu'elle recevra dans mon pensionnat sera telle, monsieur, qu'elle sera à la hauteur de la plus grande fortune. » Sarah est devenue mon élève la plus accomplie. Elle parle français admirablement et danse à ravir. Ses manières, qui lui ont valu son surnom de princesse Sarah, sont parfaites. Son amabilité, elle en fait preuve en vous invitant à la fête d'aujourd'hui. J'espère que vous appréciez sa générosité. Je désire que vous lui témoigniez votre connaissance en lui disant bien haut et toutes ensemble « Merci, Sarah !» D'un même élan, les élèves se levèrent, comme elle l'avait fait ce premier matin dont Sarah se souvenait si bien, et s'écrièrent « Merci, Sarah !» Et Lottie accompagna ces mots d'une cabriole. Sarah parut assez intimidée pendant un instant, puis se ressaisissant, elle leur fit une très jolie révérence et répondit « Je vous remercie de tout cœur d'être venue à ma fête. »« Bravo, Sarah !» approuva Miss Minchin. « Voilà comment se comporte une vraie princesse quand son peuple l'applaudit. » « Lavinia, et ceci fut dit avec sévérité, je crois avoir entendu comme une sorte de grognement. Si vous êtes jalouse de votre compagne, du moins, je vous prie d'exprimer vos sentiments d'une manière plus distinguée. Et maintenant, je vous laisse à vos amusements. » Après qu'elle eut quitté la salle, la contrainte que sa présence inspirait toujours se dissipa, et la porte était à peine refermée derrière elle que tous les sièges se trouvèrent vides. Les plus petites dégringolèrent de leurs chaises, et les plus grandes ne perdirent pas une seconde pour quitter les leurs. Toutes se précipitèrent du côté des paquets. Sarah se pencha d'un air ravi sur l'un des cartons. « Je sais que ce sont des livres, » dit-elle. On perçut un murmure attristé du côté des petites, et Ermengarde parut révoltée. « Est-ce que votre père vous envoie des livres pour votre fête ?»« Mais il est pire que le mien. Ne les ouvrez pas, Sarah !» « Mais j'aime les livres !» dit Sarah en riant. Puis elle ouvrit la plus grande boîte. Au moment où elle en sortit la dernière poupée, celle-ci fut trouvée si magnifique que les enfants poussèrent des cris de joie et se reculèrent pour la mieux contempler. « Elle est presque aussi grande que Lottie !» remarqua l'une des enfants. Lottie frappa des mains et de joie se mit à danser. « Elle est en toilette de théâtre !» dit Lavinia. « Son manteau est doublé d'hermine !» « Regardez !» s'écria Ermengarde. « Elle tient à la main des jumelles bleues et or. »« Voici sa malle !» dit Sarah. « Ouvrons-la et regardons son trousseau. » Elle s'assit par terre et tourna la clé. Les enfants s'exclamaient autour d'elle, pendant qu'elle sortait tous les casiers l'un après l'autre et leur en montrait le contenu. Jamais on n'avait entendu un tel tapage dans la salle d'études. Il y avait des cols de dentelle, des bas de soie, des mouchoirs. Un coffret à bijoux contenant un collier et un diadème qui semblait serti de vrais diamants. Il y avait une longue étole et un manchon de loutre, des robes de bal, des robes pour la promenade et des robes pour les visites. Il y avait encore des chapeaux et des éventails. Lavinia et Jessie en oublièrent qu'elles étaient trop grandes pour se soucier de poupées et, joignant leur exclamation à celle des autres, prirent les objets pour les mieux regarder. Sarah, debout, près de la table, coiffa d'un grand chapeau de velours noir, la tête de la calme et souriante propriétaire de toutes ses splendeurs, et dit « Supposons qu'elle comprend ce que nous disons, et qu'elle est heureuse qu'on l'admire. » « Il faut toujours imaginer des choses extraordinaires, » dit Lavinia d'un ton agressif. « C'est vrai, » répondit Sarah avec calme, « j'ai cette faiblesse, c'est si amusant, on se croit une fée, » et à force de se figurer une chose, on finit par croire que c'est arrivé. Oh, c'est bien facile, quand tous vos désirs sont comblés, à peine exprimés, répondit Lavinia. Mais si vous étiez une mendiante, et si vous viviez dans un galta, pourriez-vous encore vous amuser de ces imaginations et de ces suppositions ?
Sarah, qui était en train d'arranger les plumes du chapeau de la dernière poupée, s'arrêta et dit d'un air pensif.
« Oui, je crois que je le pourrais. Si j'étais une mendiante, j'aurais encore beaucoup plus besoin de rêver d'une vie meilleure, mais j'y aurais plus de mal. »
Par la suite, souvent elle pensa combien il était étrange qu'à ce moment précis, Miss Amelia fût entrée dans la pièce.
« Sarah, dit celle-ci, le notaire de votre père, M. Burrow, vient d'arriver pour faire une visite à Miss Minchin. Comme elle désire s'entretenir seule avec lui et que les rafraîchissements sont servis dans le salon, je vous demande d'aller toutes goûter maintenant, afin que ma sœur puisse recevoir M. Burrow ici. »
Il était à supposer que les enfants accepteraient avec plaisir les rafraîchissements à quelques heures qu'ils fussent servis. Et en effet, tous les visages s'illuminèrent. Miss Amelia fit sortir les élèves en rang et se mit à leur tête, avec Sarah à ses côtés, laissant la dernière poupée assise sur une chaise avec toute la splendeur de son trousseau éparpillé autour d'elle. Les robes et les manteaux étaient suspendus au dossier des chaises, et les innombrables jupons avec leurs volants de dentelle s'étalaient sur tous les sièges. Becky, que personne n'invitait à venir se rafraîchir, eut l'indiscrétion de rester encore un moment à contempler toutes ces merveilles, malgré l'ordre de Miss Amelia.
« Retournez à votre travail !»
Elle ramassa un manchon, puis un manteau, et tandis qu'elle les contemplait avec ravissement, elle entendit Miss Minchin qui s'approchait. Frappée de terreur, elle se précipita sous la table dont le tapis la cacha. Miss Minchin entra dans la pièce, accompagnée d'un petit homme au visage sec et dur, qui avait l'air troublé, et nous devons avouer que Miss Minchin elle-même paraissait mal à l'aise. Elle dévisageait le petit homme avec une expression de curiosité irritée. Digne et raide, elle s'assit et lui indiqua un siège de la main. « Veuillez vous asseoir, Monsieur Burrow. » Monsieur Burrow n'obéit pas immédiatement. La dernière poupée et tout son trousseau semblaient l'intriguer. Il consolida ses lunettes sur son nez et regarda le tout d'un air désapprobateur. La dernière poupée ne sembla pas s'en émouvoir. Elle resta assise, très droite, et le contempla avec indifférence. « Plusieurs centaines de francs dépensés, » dit M. Burrow, en résumant sa pensée. « Des étoffes très chères, et le tout confectionné chez une grande couturière. Il dépensait son argent sans compter, ce jeune homme. » Miss Minchin se sentit offensée. M. Burrow se permettait de dénigrer le père de sa meilleure élève. Même un notaire n'avait pas le droit de se permettre une pareille privauté. « Excusez-moi, Monsieur Burrow, » dit-elle avec raideur, « je ne vous comprends pas. » « De tels cadeaux de fête à une enfant de 11 ans, » continua M. Burrow du même ton, « j'appelle cela de l'extravagance, de la folie. » Miss Minchin se redressa, avec plus de raideur encore. « Le capitaine Crewe, » dit-elle, « est un homme très riche. Rien que ses mines de diamants... » M. Burrow se retourna, brusquement vers elle. « Les mines de diamants, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. » Miss Minchin se leva de sa chaise. « Quoi ?» cria-t-elle. « Que voulez-vous dire ?»« Dans tous les cas, » répondit M. Burrow avec aigreur, « il aurait beaucoup mieux valu qu'il n'y en ait jamais eu. »«
Pas de mine de diamants !»
s'écria Miss Minchin, se tenant au dossier de sa chaise avec la sensation de voir un beau rêve s'évanouir. « Les mines de diamants conduisent plus souvent à la ruine qu'à l'opulence, » dit M. Burrow. « Quand un homme se confie à un ami très cher et qui n'est pas lui-même un homme d'affaires, il devrait se garder des mines de diamants, du cher ami ou de toute autre sorte de mine dans lesquelles ses amis veulent qu'il place son argent. Feu le capitaine Crewe !»
Miss Minchin l'interrompit, haletante. « Feu le capitaine Crewe ! Vous n'êtes pas venu pour m'apprendre que le capitaine est... »
« Est mort, oui, madame, » dit M. Burrow avec brusquerie. « Mort des fièvres tropicales, compliquées de préoccupations d'argent. » La fièvre ne l'aurait pas tué s'il n'avait pas été affolé par les soucis de ses affaires, et les soucis de ses affaires ne l'auraient pas tué s'il n'avait été miné par les fièvres. Le capitaine est mort.
Miss Minchin se laissa retomber sur sa chaise. Les paroles du notaire la remplissaient d'alarme. « Quels étaient ses soucis ? » demanda-t-elle.
Les mines de diamants, répondit Monsieur Burrow. Et les chers amis. Et la ruine.
Miss Minchin l'interrompit haletante.
La ruine.
Il perdit son dernier sou. Ce jeune homme était trop riche. Le cher ami était plein d'illusions au sujet de la mine de diamants. Il y avait mis tout son argent, et aussi tout celui du capitaine Crewe. Puis le cher ami s'enfuit, et le capitaine était déjà en proie à la fièvre quand la nouvelle lui en parvint. Il ne put supporter ce coup et mourut dans le délire, appelant sa petite fille et ne laissant pas un sou.
Maintenant Miss Minchin comprenait, et jamais elle n'avait reçu un semblable coup. Sa plus riche élève, et toutes les espérances que cet élève et son père avaient fait naître, balayées d'un seul coup. Il lui semblait qu'elle avait été trahie et volée, et que le capitaine Crewe, Sarah et M. Burrow méritaient tous également d'être châtiés.
Oserez-vous me dire qu'il n'a rien laissé?
Que Sarah n'aura rien? Que cet enfant est une mendiante? Que je vais l'avoir sur les bras, une pauvresse au lieu d'une riche héritière?
M. Burrow était un homme d'affaires très entendu et adroit. Il jugea bon d'établir, sans aucun délai, qu'il n'avait aucune responsabilité dans cette affaire.
À cette heure, elle n'est plus certainement qu'une mendiante, et c'est bien vous qui l'avez sur les bras, madame, car elle ne possède aucun parent au monde, à notre connaissance.
Miss Minchin se précipita vers la porte, comme si elle allait l'ouvrir et s'élancer au dehors pour arrêter la fête qui se poursuivait joyeuse et même bruyante autour de la table du goûter.
C'est monstrueux, dit-elle. Cette petite est en ce moment dans mon salon, habillée de soie et de dentelle, et elle donne une fête à mes frais.
Si c'est elle qui la donne, elle la donne certainement à vos frais, dit M. Burrow avec calme. Burrow et Skipworth ne sont responsables en rien dans cette affaire. Jamais fortune n'a été engloutie plus complètement. Le capitaine est mort sans payer notre dernière retraite, et elle était d'importance.
Miss Minchin se retourna avec une indignation croissante. Ceci était plus terrible que tout ce qu'elle aurait pu imaginer.
Et je me croyais tellement sûre d'être remboursée, s'écria-t-elle, que j'ai fait un tas de dépenses absurdes pour cet enfant. C'est moi qui ai payé cette poupée ridicule et son absurde trousseau. Il ne fallait rien lui refuser. Elle a une voiture, un poney, une femme de chambre, et depuis le dernier règlement de compte, c'est moi qui ai tout avancé.
M. Burrow n'avait nullement l'intention de rester à écouter les doléances de Miss Minchin, après avoir clairement établi sa position et crûment exposé les faits tels qu'ils étaient.
Vous feriez mieux de ne plus rien payer, madame, dit-il, à moins que vous n'ayez l'intention de faire des cadeaux à la jeune personne. Personne ne vous en sera gré. Elle n'a pas un sou vaillant à elle.
Mais que faut-il que je fasse? Demanda Miss Minchin.
Elle semblait croire que c'était au notaire à arranger tout cela.
Il n'y a rien à faire, dit M. Burrow, remettant soigneusement ses lunettes dans leur étui. Le capitaine est mort, l'enfant est sans crédit, et il n'y a que vous de responsable pour elle.
Je ne suis pas responsable, et je refuse d'être responsable, dit Miss Minchin, pâlissant de rage.
M. Burrow se prépara à partir.
Je n'ai rien à y voir, madame, dit-il d'un air détaché. Mon associé et moi, nous ne sommes pas responsables. Mais acceptez tous nos regrets que l'affaire ait ainsi tourné.
Si vous pensez, dit Miss Minchin avec violence, qu'on va pouvoir s'en débarrasser sur moi, vous vous trompez étrangement. On m'a volé, on m'a dupé, je vais jeter cet enfant à la rue.
Si elle n'avait pas été hors d'elle, elle eût observé plus de prudence. Mais elle se voyait encombrée d'une enfant élevée d'une façon extravagante, à qui elle en avait toujours voulu, et elle perdait tout contrôle sur elle-même. M. Burrow s'avança avec calme vers la porte.
« Je ne vous le conseillerais pas, madame, » dit-il. « Cela ne ferait pas bon effet et nuirait à la réputation de votre pensionnat. Une élève jetée à la rue sans le sou et sans amis. » C'était un homme d'affaires intelligent et il savait ce qu'il disait. Il se rendait compte aussi que Miss Minchin était douée d'assez de sens pratique pour reconnaître la justesse de ses conseils. Elle n'agirait pas d'une manière qui la ferait juger cruelle et sans cœur.
« Il vaut mieux la garder et vous en servir, » ajouta-t-il. « C'est une enfant intelligente, n'est-ce pas? Elle pourra vous rendre de grands services quand elle sera plus âgée. »«
Elle me rendra des services avant d'être plus âgée. »«
Je n'en doute pas, madame, » dit M. Burrow avec un petit sourire fielleux. « Je n'en doute pas. Au revoir. »
Il salua, sortit et ferma la porte.
Miss Minchin resta debout un instant à fixer la porte d'un regard furieux. Tout ce qu'elle venait d'entendre était parfaitement vrai. Elle le sentait. Elle ne pouvait espérer aucun dédommagement. Sa plus riche élève avait disparu, comme une ombre, ne laissant à sa place qu'une pauvre petite gueuse abandonnée. Tout l'argent qu'elle avait avancé était perdu sans retour. Et comme elle restait là, accablée sous le coup, soudain des cris de joie venant de son salon, cédés à Sarah pour sa fête, frappèrent ses oreilles. Ceci du moins, elle pouvait y mettre fin. Mais comme elle s'approchait de la porte, celle-ci s'ouvrit et Miss Amelia apparut, qui, en voyant la figure bouleversée et furieuse de sa sœur, recula d'un pas.
Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur ? Balbutia-t-elle.
Miss Minchin répondit sur un ton presque féroce. « Où est Sarah Crewe ?» Miss Amelia demeura stupide.
« Sarah ? » bégaya-t-elle. « Mais elle s'amuse avec ses amis dans votre salon. »
« A-t-elle une robe noire dans son trousseau somptueux ?» demanda Miss Minchin avec une ironie amère.
« Une robe noire ? » dit Miss Amelia. « Noire ? Elle a des robes de toutes les couleurs. En a-t-elle une noire ?»
Miss Amelia pâlit.
« Oui, non. Si, elle en a une, mais trop courte. Elle n'a que la vieille robe de velours noir, et elle ne lui va plus. »
Allez lui dire d'ôter cette grotesque robe de mousseline rose, et de mettre la robe noire. Qu'elle soit trop courte ou non, c'est fini pour elle, les belles toilettes. »
Alors Miss Amelia, au comble de l'agitation, se mit à pleurer. « Oh, ma sœur, » dit-elle en gémissant, « qu'est-ce qui a bien pu arriver ?»
Miss Minchin ne fit pas de phrase inutile.
« Le capitaine Crewe est mort. Il est mort sans laisser un sou. Cette enfant capricieuse, gâtée, choyée, adulée, me retombe sur les bras complètement ruinée. »
Miss Amelia s'effondra lourdement sur une chaise. « Et j'ai dépensé pour elle des milliers de francs pour des inutilités, et je ne renverrai jamais un sou. Faites cesser immédiatement cette fête ridicule. Allez la faire changer de robe tout de suite. »«
Moi ? Est-ce qu'il faut que j'aille le lui dire maintenant ?
Un instant ! Ne restez pas à me regarder comme une oie, allez !»
La pauvre Miss Amelia était habituée à être traitée d'oie. Elle savait d'ailleurs qu'elle le méritait un peu, et que c'était aux oies que l'on confia bien des tâches désagréables. La commission était embarrassante. Traverser une pièce remplie d'enfants qui s'amusent, et avoir à dire à celle qui donne la fête qu'elle est devenue une petite mendiante, et qu'il lui faut mettre une vieille robe noire trop courte, c'était pénible. Mais il fallait bien s'exécuter, car il n'était pas le moment de questionner Miss Minchin. Elle se frotta les yeux avec son mouchoir, et ils devinrent tout rouges. Puis elle se leva et quitta la chambre sans oser dire un mot de plus. Quand sa sœur aînée prenait cet air et parlait sur ce ton, la seule chose à faire était d'obéir, sans récriminer. Miss Minchin traversa la chambre, se parlant à elle-même sans s'en rendre compte. Pendant l'année qui venait de s'écouler, elle avait échafaudé bien des espoirs sur ces mines de diamants. Même des directrices de pensionnat ne peuvent-elles réussir à faire fortune avec l'aide des propriétaires de mines ? Et maintenant, au lieu d'avoir à se réjouir à la pensée des bénéfices à venir, elle en était réduite à déplorer des pertes certaines. Ah, bien oui, princesse Sarah ! C'est qu'elle était adulée comme une reine ! En prononçant ces mots, elle passa près de la table et sursauta au bruit d'un gros sanglot qui venait de dessous cette table.
« Qu'est-ce cela ? » s'écria-t-elle. Un nouveau sanglot se fit entendre. Elle souleva le coin du tapis.
« Comment osez-vous ? » s'écria-t-elle. « Sortez de là immédiatement !»
La pauvre béquille sortit en rampant, son bonnet tout de travers et son visage tout rouge de larmes retenues.
« S'il vous plaît, madame, c'est moi, madame. Je sais bien que j'aurais pas dû... « Mais je regardais la poupée, madame, et quand vous êtes rentrée, j'ai eu peur, et je me suis glissée sous la table. »«
Vous êtes restée là, tout le temps à écouter ?» demanda Miss Minchin.
« Non, madame, » protesta Becky, en faisant de petites courbettes. « Je n'écoutais pas. Je croyais pouvoir me glisser dehors, mais je n'ai pas pu. J'ai été obligée de rester, mais je n'ai pas écouté. Oh, je n'aurais pas écouté pour rien au monde, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre. »
Et soudain, il lui sembla que Miss Minchin ne l'épouvantait plus. Elle éclata en nouveaux sanglots.
« Oh, madame, s'il vous plaît, je pense bien que vous me renverrez, mais... »
Je suis si triste pour la pauvre Mademoiselle Sarah, si triste. Sortez !
Commanda Miss Minchin. Becky fit une nouvelle révérence, et ses joues s'inondèrent de larmes.
Oui, madame, dit-elle en tremblant. Je vais sortir, madame. Mais puis-je vous demander quelque chose ? Mademoiselle Sarah, elle a été si riche, si bien soignée et servie. Que fera-t-elle maintenant, sans une femme de chambre ? Si, oh, si vous vouliez bien me permettre de la servir, après avoir fini mon travail, je me dépêcherais tant, si vous me permettiez de la servir, maintenant qu'elle est pauvre. »
Et elle se mit à pleurer. Pauvre petite Mademoiselle Sarah, elle qu'on appelait princesse. Mais tout cela ne faisait qu'augmenter la colère de Miss Minchin. De voir que même la petite Souillon prenait le parti de cet enfant qu'elle avait jamais aimé, c'était vraiment trop. Elle tapa du pied.
« Non, certainement non » dit-elle. « Elle se servira elle-même, et elle servira les autres aussi. Si vous ne sortez pas immédiatement, je vous mets à la porte !»
Becky rejeta son tablier par-dessus sa tête et s'enfuit. Elle courut, dégringola les escaliers, et arriva jusqu'à l'office, où elle s'assit, effondrée parmi la vaisselle et les casseroles, et pleurant à se briser le cœur.
« C'est tout à fait comme les histoires, » gémissait-elle. Pauvres princesses, chassées de leur palais.
Jamais Miss Minchin n'était apparue aussi calme et aussi dure que lorsque Sarah vint la rejoindre quelques heures plus tard, pour répondre à son appel. Il semblait déjà à Sarah que sa fête n'avait été qu'un rêve, ou du moins qu'elle avait eu lieu il y a bien longtemps, et que l'héroïne en avait été une autre petite fille. Tous les vestiges de la fête avaient disparu. Le houx décroché des murs de la salle d'études, les bancs et les pupitres remis en place. Le salon de Miss Minchin avait repris son aspect coutumier. Et Miss Minchin avait remis sa robe de tous les jours. Les élèves, après avoir reçu l'ordre de quitter leurs beaux atouts, étaient retournés dans la salle d'études, où, formant de petits groupes, elles échangeaient des confidences avec agitation.
Dites à Sarah de venir chez moi, avait dit Miss Minchin à sa sœur, « et faites-lui comprendre que je ne veux ni scène ni larmes. »
« Ma sœur, répondit Miss Amelia, « c'est bien l'enfant la plus étrange que j'ai jamais vue. Elle n'a réellement fait aucune scène. Vous vous souvenez qu'elle n'en fit aucune déjà lorsque le capitaine partit pour les Indes. Quand je l'ai mise au courant de ce qui était arrivé, elle est restée immobile et m'a regardée sans prononcer une parole. Ses yeux ont semblé s'agrandir de plus en plus. » Et elle est devenue toute pâle. Au moment où j'ai cessé de parler, elle a continué de regarder fixement devant elle, puis son petit menton s'est mis à trembler. Et elle est sortie de la pièce, en courant pour aller se réfugier dans sa chambre. Plusieurs de ses compagnes pleuraient, mais Sarah ne semblait pas les entendre, ni être consciente de rien, si ce n'est de ce que je lui disais. Cela m'a produit une impression singulière, qu'elle ne me réponde pas un mot, car lorsqu'on annonce une nouvelle aussi imprévue et aussi cruelle à quelqu'un, on s'attend au moins à une remarque.
Personne, si ce n'est Sarah elle-même, ne sut jamais ce qui se passa dans sa chambre après qu'elle s'y fût enfermée. Et encore n'en conservait-elle que le souvenir de s'être promenée longtemps de long en large en répétant d'une voix qui ne semblait pas être la sienne.
« Mon papa est mort. Mon papa est mort. »
Même elle s'arrêta devant Émilie, qui était assise sur une chaise, et lui dit d'une voix accablée.
« Émilie, m'entendez-vous ? Papa est mort, aux Indes, à des lieues d'ici. »
Lorsque Sarah arriva dans la chambre de Miss Minchin, son visage était sans couleur, et ses yeux cernés de noir. Elle serrait les dents, comme si elle voulait se contraindre à ne pas crier de douleur. Elle n'avait plus aucune ressemblance avec le joli papillon rose qui voltigeait de cadeau en cadeau dans la salle toute parée. Ce n'était plus maintenant qu'une petite silhouette falote et désolée, presque grotesque. Elle avait enfilé, tant bien que mal, sans l'aide de Mariette, la vieille robe de velours noir, trop courte et trop serrée, d'où ses jambes sortaient, longues et maigres. Comme elle n'avait pas trouvé de ruban noir pour nouer ses cheveux sombres, ceux-ci, courts et épais, tombait en désordre autour de son visage et en faisait ressortir la pâleur. Émilie était dans ses bras, drapée dans un morceau d'étoffe noire.
« Mettez votre poupée de côté, » dit Miss Minchin, « à
Qu'en pensez-vous de l'apporter ici ?
Non, dit Sarah. Je ne m'en séparerai pas. Elle est tout ce que je possède. Mon papa me l'a donné.
Miss Minchin s'était toujours sentie gênée en présence de cet enfant, et en cette circonstance, elle éprouva la même impression.
Sarah ne parlait pas d'un ton impoli, mais avec une sorte de fermeté froide qui décontenançait un peu Miss Minchin. Peut-être parce que celle-ci se rendait compte qu'elle agissait avec dureté et sans pitié.
« Vous n'aurez plus le temps de jouer à la poupée maintenant, » dit Miss Minchin. « Il vous faudra travailler, faire des progrès, vous rendre utile. »
Sarah la fixa de ses grands yeux et ne prononça pas une parole.
« Tout va être bien différent pour vous maintenant, » continua Miss Minchin. « Je suppose que Miss Amelia vous l'a bien expliqué. »«
Oui, » répondit Sarah. « Mon papa est mort. Il ne m'a pas laissé de fortune. Je suis tout à fait pauvre. »«
Vous êtes une mendiante, » dit Miss Minchin, sentant la colère s'emparer d'elle de nouveau, à la pensée de tout ce que cela signifiait. « Il paraît que vous n'avez aucun parent, personne pour prendre soin de vous. »
Un instant, la maigre et pâle petite figure se contracta. Mais cependant, Sarah resta silencieuse.
« Que regardez-vous ? » demanda Miss Minchin avec aigreur. « Êtes-vous trop stupide pour comprendre ? Je vous dis que vous êtes seule au monde et que vous n'avez personne qui s'intéresse à vous, à moins que je ne consente à vous garder par charité. »
« Je comprends, » dit Sarah à voix basse, en étouffant un sanglot. « Je comprends. »
« Cette poupée !» cria Miss Minchin en montrant le magnifique cadeau de fête installé près d'elle. « Cette poupée ridicule, avec tout son absurde attirail, c'est moi qui l'ai payée !»
Sarah tourna la tête vers la chaise. « La dernière poupée, » dit-elle. « La dernière poupée. » Et sa petite voix triste retentit étrangement.
« C'est bien en effet LA dernière poupée, » dit Miss Minchin. « Et elle est à moi, et pas à vous. Tout ce que vous possédez est à moi. »
« Alors, prenez tout, » dit Sarah, « je n'en veux pas. » Si elle avait eu l'air effrayée, si elle avait crié et sangloté, Miss Minchin aurait peut-être eu plus de patience. C'était une femme qui aimait dominer et se sentir la plus forte. Or, en regardant la petite figure de Sarah, pâle mais calme, elle avait l'impression que sa force était méprisée.
« Ne prenez pas de grands airs. Le temps où vous pouviez le faire est passé. Vous n'êtes plus une princesse. Je vais vendre votre voiture et votre poney et donner congé à votre femme de chambre. Vous porterez vos robes les plus vieilles et les plus simples. Vos robes extravagantes ne conviennent plus à votre situation. Vous êtes cambéqué. Il vous faut travailler pour gagner votre vie. »
À son étonnement, les yeux de l'enfant s'éclairèrent, comme d'un rayon d'espoir et de soulagement.
« Est-ce que je peux travailler ? » dit-elle. « Si je peux travailler, ce ne serait pas si mal. Qu'est-ce que je peux faire ?»«
Vous ferez tout ce qu'on vous commandera, » répondit Miss Minchin. « Vous êtes une enfant intelligente, et vous comprenez vite. Si vous vous rendez utile, il se peut que je vous permette de rester ici. Vous parlez bien le français, et vous pouvez aider à l'enseigner aux petites. »«
Oh oui !» s'écria Sarah. « Permettez-moi de le faire. Je suis sûre que je saurai les faire travailler. Je les aime et elles m'aiment. » »«
Ne dites pas de sottises. Qu'importe si les gens vous aiment ou ne vous aiment pas, » dit Miss Minchin. « Vous aurez à faire autre chose qu'à enseigner le français aux petites. Vous ferez les commissions et vous aiderez à la cuisine, aussi bien qu'à la salle d'études.
Si je ne suis pas satisfaite de votre conduite, je vous renverrai.
Souvenez-vous-en, et maintenant sortez. »
Sarah resta un moment immobile à regarder Miss Minchin. Dans son jeune cœur, des pensées profondes et imprécises s'agitaient. Puis, elle se retourna pour quitter la pièce.
« Eh bien, » ajouta Miss Minchin, « est-ce que vous ne me remerciez pas ?»
Sarah s'arrêta, et à ce moment, sa rancune lui monta du cœur aux lèvres.
« Vous remerciez de quoi ? »
dit-elle. « De ma bonté, » dit Miss Minchin, « la bonté dont je fais preuve en vous donnant un home. »
Sarah s'avança de deux ou trois pas, la respiration haletante et avec une violence au-dessus de son âge.
« Vous n'êtes pas bonne, non. Vous n'êtes pas bonne, et votre maison n'est pas un home. »
Et elle s'enfuit hors de la chambre avant que Miss Minchin pût l'arrêter ou faire autre chose que de la poursuivre de ses regards furieux.
Sarah monta les escaliers lentement, et cependant hors d'haleine, tenant Émilie serrée contre elle.
« Je voudrais qu'elle sût parler, se disait-elle. Oh, si elle pouvait parler !»
Son intention était d'aller dans son petit salon, et de s'étendre sur la peau de tigre avec la joue appuyée sur la tête du félin, de regarder le feu et de se laisser aller à ses tristes pensées. Mais, avant d'atteindre le palier, elle aperçut Miss Amelia, qui sortait de son petit salon, et semblait monter la garde devant la porte d'un air gêné. Cette bonne fille, au fond d'elle-même, paraissait honteuse de remplir le rôle qu'on lui faisait jouer.
« Il vous est défendu d'entrer ici, » dit-elle à Sarah.
« Je ne puis entrer ?» s'étonna Sarah, reculant d'un pas.
« Ce n'est plus votre chambre maintenant, » répondit Miss Amelia, en rougissant un peu.
Tout à coup, sans trop savoir comment, Sarah comprit. Elle comprit que c'était le commencement de ce changement dont Miss Minchin avait parlé.
« Où est ma chambre ? » demanda-t-elle, s'appliquant de toutes ses forces à ne pas laisser trembler sa voix.
« Vous coucherez dorénavant dans la mansarde qui est à côté de celle de Becky. » Sarah savait où se trouvait cette mansarde. Becky lui en avait parlé. Elle monta deux étages. En approchant des mansardes, l'escalier devenait plus étroit et les marches n'étaient plus couvertes que de vieux morceaux de tapis usés. Il semblait à Sarah qu'elle allait très loin et laissait, très loin derrière elle, le monde où avait vécu cet autre enfant, qu'elle avait été et qu'elle n'était plus. La petite fille qui gravissait ses marches, dans sa robe trop courte et trop étroite, était un être tout différent. Arrivée à la porte de sa mansarde, elle l'ouvrit, et son pauvre cœur battit tristement. Elle en ferma la porte, s'y appuya et regarda autour d'elle. Oui, c'était bien un autre monde. La chambre était mansardée et blanchie à la chaux. Le plâtre des murs était sale et écaillé par endroits. Elle remarqua la grille du foyer rouillée, un vieux lit de fer avec un matelas très dur et un couvre-pied fané, ainsi que quelques meubles hors d'usage qui y avaient été relégués. Sous la lucarne, à travers laquelle on ne voyait qu'un petit carré de ciel grisâtre et triste, se trouvait un vieux tabouret rouge tout disloqué. Sarah s'y assit. Elle ne pleura pas, car elle ne pleurait rarement. Elle étendit Émilie sur ses genoux, l'entoura de ses bras et resta immobile, sa petite tête brune posée sur la robe noire de la poupée, sans dire un mot, sans faire un mouvement. Et tandis qu'elle était là, silencieuse, un coup léger fut frappé à la porte, un coup si humble qu'elle ne le perçut pas, car elle ne leva la tête qu'au moment où la porte s'entr'ouvrit et qu'une pauvre figure inondée de larmes apparut dans l'entrebâillement. C'était Becky, Becky qui avait pleuré en cachette depuis des heures et s'était frotté les yeux avec son tablier de cuisine, si bien que son pauvre visage en était tout barbouillé.
« Oh, Miss, » dit-elle à voix basse, « puis-je, voulez-vous me permettre simplement d'entrer ?»
Sarah leva la tête et la regarda. Elle essayait de sourire, mais sans y réussir. Et tout à coup, ce fut sans doute causé par l'affectueuse tristesse des yeux de Becky, son visage reprit une expression plus naturelle et plus enfantine. Elle tendit sa main et ne put retenir un petit sanglot.
« Oh, Becky, je vous disais bien que nous étions toutes pareilles, simplement deux petites filles. Il n'y a pas de différence entre nous à présent. Je ne suis plus une princesse. »
Becky courut à elle, prit sa main et la serra contre son cœur, à genoux près d'elle, et lui témoignant son affection et son chagrin.
« Aussi, Miss, vous êtes une princesse, » s'écria-t-elle d'une voix entrecoupée. « Quoi qu'il puisse vous arriver, vous serez toujours une princesse. »